Sylvie Paré, vous êtes agente culturelle au Jardin des Premières Nations, au Jardin botanique de Montréal. Alors, actuellement a lieu une exposition intitulée Expo Savoir et Savoir-faire. C'est quoi l'objectif de cette exposition?
Premièrement, le jardin a été créé, le Jardin des Premières Nations est le dernier des jardins culturels du Jardin botanique après le Jardin de Chine et le Jardin japonais. Le but et l'objectif, c'est évidemment que le Jardin des Premières Nations soit un lieu de rencontre entre la société québécoise, les Premières Nations et les autres cultures, et donc être un lieu de rencontre et d'une meilleure connaissance sur les Premières Nations. Donc, et aussi, c'est vraiment l'apport nature-culture. Donc, vous savez que pour les Autochtones, en général, tous les Autochtones, la relation nature-culture n'est pas séparée. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble.
Vous avez fait allusion à une meilleure connaissance. Est-ce que vous avez l'impression que la culture des Premières Nations n'est pas suffisamment connue du reste de la société québécoise?
Absolument. Écoutez, il y a eu des améliorations quand même parce qu'il y a eu plusieurs publications, je dirais, depuis les 30 dernières années avec des chercheurs et plus de documentaires. Et vous savez, quand un peuple est colonisé, ben il faut plusieurs générations pour arriver à former des universitaires, à des gens qui prennent la parole et les tribunes. Et je dirais qu'au Québec, en général, les Québécois sont très ouverts aux autres cultures, mais parfois, pour les Premières Nations, c'est plus difficile parce qu'il y a un passé qui est quelque peu douloureux dans tout ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, là, disons qu'il y a plus d'intérêt qu'il y en a déjà eu, mais on se frappe souvent une grande indifférence et aussi un désintérêt total. Et ce qui arrive aussi, c'est que les institutions, vous savez, demeurent en quelque soit colonisées. Alors, les individus veulent souvent, ils veulent changer les choses, ils veulent des rapprochements, mais souvent dans le système dans lequel on vit, que ce soit au niveau gouvernemental, judiciaire ou etc., il reste des anciennes structures qui sont très difficiles à défaire.
Alors, maintenant, dans cette exposition-là, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement?
Bon, alors chaque vitrine est consacrée à un matériau, donc qui était utilisé, qui est toujours utilisé par les Premières Nations. On a une vitrine, par exemple, qui est sur le maïs. Donc tout ce qu'on faisait avec les feuilles de maïs, que ce soit des hochets, des tressages qui ressemblaient à du tressage de jonc, on faisait des petits tapis. Il y a une marionnette aussi, un jouet pour enfants qui est fait à partir des feuilles de maïs, et aussi il y a du lin dans le petit tapis. Donc tous les matériaux, on a aussi une miniature des trois sœurs. Vous savez, la culture des trois sœurs, autant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, ça a été une culture extrêmement importante. On parle souvent de la légende des trois sœurs qui sont trois belles femmes, mais en fait, c'est pour parler des plantes potagères que sont le maïs, la courge et le haricot.
Ah, ça, c'est très intéressant, ça.
Vous savez, avec les hivers rigoureux qu'on a en Amérique du Nord, les Iroquois, dans le mode de vie traditionnel, faisaient des réserves de maïs. Alors, ce qui leur permettait... Ils faisaient une farine de maïs, ils faisaient des pains de maïs, ils faisaient des bijoux, ils faisaient des hochets. Pour les Iroquois, le maïs, en fin de compte, c'est la plante qui donnait le lieu de plusieurs cérémonies.
Ouais, très, très intéressant. On parle donc d'un design autochtone. Comment est-ce qu'on peut le qualifier pour quelqu'un qui n'a pas la chance de voir des objets des Premières Nations?
Oui. Alors, le musée, en fin de compte, on parle d'un open-air museum. C'est le Jardin des Premières Nations a un bâtiment et l'exposition se trouve être à l'extérieur. Ça, c'est la grande particularité, la grande originalité. On peut faire le lien tout de suite entre les objets qui se retrouvent dans les vitrines et le territoire, les ressources premières. Donc, d'un côté, on a les forêts de feuillus où habitaient majoritairement les peuples iroquois. D'un autre côté, on a la zone de la Pessière avec tout ce qui est conifères, forêts boréales, jusqu'à la toundra qui représente les Inuits. Donc, chaque objet qui est dans la vitrine, on peut faire le lien tout de suite. Ah, c'est du bouleau, c'est de l'écorce de bouleau. Donc, on a le bouleau qui est dans le jardin. Mmh. Alors, le lien se fait vraiment, est très vivant entre l'objet et sa provenance.
Et si, par exemple, on veut caractériser le design des Premières Nations par rapport au design, on va dire, moderne, québécois?
Écoutez, il y a vraiment, je dirais, un courant actuel au Québec. Actuellement, on vit comme une espèce de révolution culturelle dans les réserves et dans les communautés parce que il y a de plus en plus de groupes de recherche. Vous savez, il y a une façon de faire la recherche il y a à peu près 50 ans où on allait chercher des données chez les Autochtones, on partait avec les données, on redonnait pas aux communautés. Là, il y a un groupe de recherche qui s'appelle la Boîte Rouge-Vif, qui est un groupe groupe de recherche universitaire à Chicoutimi, qui sont composés à la fois d'une équipe d'Autochtones et de non-Autochtones, des universitaires, qui vont travailler avec les communautés sur le design contemporain. Donc, c'est un design qui s'inspire de la tradition, mais pour créer des objets d'aujourd'hui adaptés à leur mode de vie d'aujourd'hui. Alors, ils ont fait plusieurs expéditions dans le Grand Nord, au Nunavik. Ils en ont fait dans presque toutes les communautés afin de créer l'exposition qu'on peut voir au Musée de la civilisation à Québec, qui s'appelle « C'est notre histoire », mais que l'exposition, malheureusement, était fermée jusqu'à dernièrement pour des causes de feu. Mais là, elle va réouvrir d'ici peu. Donc là, je dirais que les peuples autochtones, dans leur design, ils se rapprochent beaucoup plus des Asiatiques, par exemple des Japonais. Le caractère contemporain de l'objet, ce respect de la tradition.
Et alors, quand on parle donc des Premières Nations, de la caractéristique que vous données là, est-ce qu'elle s'applique aussi à l'art inuit?
Écoutez, l'art inuit, c'est intemporel. Hein. On sait qu'on connaît évidemment la sculpture inuit, mais qu'on a eu aujourd'hui, qui a été très développée suite à des coopératives qui ont été développées par le gouvernement fédéral et le ministère des Affaires indiennes, etc. Mais ce qui arrive avec le design inuit, il y a eu des ateliers aussi auxquels moi-même j'ai participé, parce que je suis allée deux fois à Inujuak travailler dans une classe avec des enfants d'une cinquième année pour justement les initier à un projet de création de design en rapport à des objets de la tradition. Les objets des Inuits sont d'une intemporalité parce que c'est des objets à la fois tellement minimal et tellement efficace. Souvent, l'objet chez les Inuits a deux à trois fonctions. Le houlou, pour la femme, par exemple, va servir comme cuillère, ni plus ni moins, comme grattoir et pour couper aussi. Alors, souvent, il y a plusieurs fonctions compte tenu du fait que c'était des nomades. Il fallait traîner le moins d'objets possible aussi. Je dirais que les objets, même les designers spécialistes dans le monde entier, en général, ils reconnaissent les objets Inuits comme les plus riches en termes de design contemporain. Mais ça, pas beaucoup de monde sait ça au Québec.
C'est une découverte aussi, là, pour moi, ce que vous dites là.
C'est toujours cette difficulté, vous savez, on dirait que, je ne sais pas si vous connaissez le film Le peuple invisible de Richard Desjardins.
Oui, bien sûr.
C'est le phénomène qui arrive, je dirais, après une colonisation. C'est comme s'il y avait un angle mort et les peuples avec lesquels il y a eu des difficultés ou en tout cas un passé plutôt. De toute façon, il n'y a pas d'histoire sans tragédie. Mais on dirait qu'on a difficulté. C'est incroyable l'effort que ça demande pour voir les peuples à leur juste mesure, à leur juste valeur.
En tout cas, j'encourage ceux qui le peuvent à aller visiter, à aller apprécier cette exposition Expo Savoir et Savoir-Faire au Jardin des Premières Nations.
Oui, dans un contexte de nature. Hein, vous comprendrez que c'est une expo qui est dans un jardin, à l'extérieur, et en plus, il y a la présence de nos animateurs qui sont issus des nations, des Premières Nations. Donc, j'ai une Inuit, justement, et j'ai un Inou, un montagnais de Mashtoyats. Et puis, donc, ça, c'est des belles découvertes à faire aussi au niveau des échanges dans la continuité de la tradition orale.
Sylvie Paré, agente culturelle au Jardin des Premières Nations, au Jardin botanique de Montréal. Merci beaucoup pour ces explications.
Merci. Tiawink.
Merci.